là, que des enfants de Dieu sont dans la souffrance due à la guerre, due à la pauvreté extrême, due à la maladie, à la solitude. Comment est-ce qu'on peut agir pour combler ses besoins? On peut attendre tout simplement les bras fermés, les bras croisés, que Dieu fasse un miracle. Sans agir, on dit, moi, je veux laisser toute la place à Dieu. Ou encore, on peut mettre Dieu de côté puis dire, Dieu ne répond pas, donc on fonce tête première. L'épître de Jacques s'adressait à des chrétiens qui sont des juifs. Hein? Vraiment, c'était une lettre à toutes les communautés juives dans la diaspora qui avait été renvoyée de Jérusalem à l'occasion de la persécution d'Étienne. Et on sait que les Juifs, ils ont toujours été des grands commerçants. Ils ont encore cette réputation-là. Et ils le sont encore aujourd'hui. Donc, devant une situation extrême, il pouvait naître chez les enfants de Dieu un désir fort d'assumer par eux-mêmes leur destinée avec une indépendance face à leur Dieu. Ils pouvaient avoir aussi cette idée de dire, regarde, ça fait un certain temps que je me confie en Dieu, Dieu ne répond pas et je vais me prendre moi-même en charge, je vais assumer ma vie, puis je vais répondre à mes besoins qui sont légitimes. Et c'était le danger qui guettait les receveurs de la lettre. Et c'est le même danger qui nous guette aujourd'hui quand on est dans la même situation. Donc, on va commencer par lire les versets 13 à 17 du chapitre 4. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Donc, dans l'épître de Jacques, pour se mettre un peu dans le contexte, il y avait une pauvreté profonde. Hein, dans la section un petit peu tout de suite après, chapitre 5, verset 1, Jacques, puis le Seigneur voulait envoyer un message aux riches qui étaient extrêmement, qui abusaient des pauvres. On commence avec le verset 13. À vous maintenant, à vous qui dites, hein, on ne sait pas à qui en particulier, là, il envoyait une lettre à des milliers et des milliers de chrétiens dans des centaines d'églises qui étaient composées de chrétiens juifs. Et là, dans cette section-là, il dit à vous qui dites, quelle est l'identité de ces gens qui sont désignés comme qui dites? C'est quoi leur caractéristiques. Le contexte est très bon pour le découvrir. Au chapitre 5, une fois qu'après le verset 17, tout de suite après, Jacques va dire, à vous maintenant, j'ai parlé à certains, maintenant, je vous parle à vous autres, à vous maintenant, riches. Jacques s'adresse aux riches et juste par une déduction et en voyant le contenu de notre passage de ce matin, on peut affirmer sans se tromper que Jacques s'adressait particulièrement aux pauvres, à ces pauvres qui se débattaient qui se démenaient pour avoir le minimum. Ces chrétiens pauvres avaient des plans précis, détaillés, étudiés, et on peut même en voir les étapes. Il y avait un lieu, hein, on va aller à telle place, une ville précise sur la carte. Il y avait un temps défini. Aujourd'hui, demain, on va passer une année qui est dit. Il y avait une activité, le commerce, dans un domaine précis, et il y avait un but, gagner beaucoup d'argent, faire fortune et se sortir de leur situation précaire. Le seul problème, c'est que Dieu n'avait pas sa place dans ses plans. Il n'y avait pas de dépendance sur Dieu. Dieu n'était plus au contrôle. Pour faire une version moderne, je suis tanné, Dieu ne répond pas à mes besoins, je vais me prendre en main, je vais me partir un commerce, je vais faire une petite fortune puis me sortir de ma situation. Comment on agit en situation de crise, que ce soit des crises financières comme il était là, ça peut être des crises médicales, ça peut être des crises familiales. Comment on agit? Est-ce qu'on agit comme si Dieu n'avait absolument rien à faire dans notre vie? On voit le problème, on voit la solution, on se met à agir sans se soucier de Dieu, sans chercher sa face, sans chercher sa direction. On connaît bien dans Proverbe, hein? Recommande ton sort à l'Éternel et tes projets réussiront. Une dépendance et une confiance en Dieu qui était vraie dans l'Ancien Testament et qui est toujours vraie dans le Nouveau. Proverbe 3:5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Il ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, ici, dans notre passage, ce n'était pas un péché au niveau des actions. Ce qu'il faisait n'était pas mal, mais c'était bien plus un péché au niveau des intentions et des attitudes, de mettre Dieu de côté, de dire « Dieu, Jésus, on t'a donné la chance de répondre à nos besoins et depuis des mois, depuis des années, tu ne l'as pas fait. Donc là, on te met de côté, on n'aime pas nos circonstances et on va agir par nous-mêmes. » Au verset 14, devant de tels projets, Jacques met en garde ses chrétiens contre le danger d'agir par eux-mêmes, comme s'ils avaient un contrôle réel sur ce qui va leur arriver demain. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Hein? Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Les gens sont prêts à payer une fortune pour savoir ce qui va arriver demain. Pourquoi? Justement parce qu'on ne peut pas le savoir. J'écoutais cette semaine, pendant que je préparais mon message, des premiers ministres du Canada, John A. Macdonald, qui avait plein de superstitions et qui ne prenait aucune décision importante concernant le pays sans aller voir des cartomanciennes, des gens qui prédisaient l'avenir. Des fois, il y avait des mimiques qu'on entendait. Il fallait qu'ils répondent à 15h15. Puis là, en chambre, dans la Chambre des communes, il était posé une question, puis il était juste 15h11. Fait là, il faisait des distractions, puis il allait dire ce qu'il allait faire à 15h15. Essayer de savoir ce qui va arriver dans l'avenir de toutes sortes de façons. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Les projets de ses frères comportaient des étapes précises. Demain, dans un an, du commerce, de l'argent. Mais ils oubliaient le plus important. Celui qui donne toute chose, la source de toute bénédiction. Ensuite, verset 14 nous dit, vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Wow! Hein? Ça vient du psaume 90, hein, le psaume de Moïse sur le temps qui nous, disait déjà que on est une vapeur, que un siècle, 100 ans, c'est comme un songe. Hein? Des fois, on a des rêves. Il me semble que ça a été court, puis on se souvient juste de quelques souvenirs. Bien, notre vie est comme un songe qui disparaît aussitôt qu'on se réveille. Notre vie est comme une vapeur, une légère brume. Hein? J'aime bien aller à la pêche, puis des fois, on est sur le lac, là, on arrive, puis il y a un peu de brume, puis aussitôt que le soleil se lève, ben, c'est fini. Hein? On regarde des entreprises avec leurs grandes cheminées, puis j'essaye de suivre la vapeur qui sort aussitôt. On compte 1, 2, 3 secondes, elle a été évaporée, il n'y en a plus. Il y en a toujours de la nouvelle, mais celle-là, elle a disparu. Toujours surprenant quand des célébrités, surtout au Québec, quand des célébrités, on a eu Mike Bossy, Guy Lafleur, et à chaque fois qu'arrive une nouvelle personne appréciée, une célébrité, une vedette, quand on entend le décès, qu'est-ce que les gens disent? Ça se peut pas! Elle est décédée, puis je comprends l'affection que les gens ont, puis moi aussi, tu sais, je suis touché. Mais c'est comme si on est tous étonnés que cette personne-là décède. On sait qu'on va tous décéder, puis tous ceux qui sont présents, qui sont importants, ils sont une vapeur en attente du moment où elles vont décéder comme tout le monde. Ce passage ne veut pas dire que vous allez mourir dans quelques instants. Non, ce n'est pas d'avoir peur, mais que la vie est précaire et qu'on est là aujourd'hui et que pour demain, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu. Dans des services funéraires, surtout au moment de l'inhumation des cendres ou encore du corps dans la terre, j'ai toujours utilisé les deux versets qui sont là, Actes 17, 25 et 28, qui dit, lui, en parlant de Dieu, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Le texte continue et Paul, dans son discours, continue en disant, en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. J'aime tellement ces deux versets. Ce que ça nous rappelle hein, devant l'être bien-aimé à qui on assiste au funérailles et à l'inhumation, ça nous rappelle que Dieu avait donné la vie à cette personne et que jusqu'au moment de sa mort, on souligne cet événement-là, que cette personne-là nous a quittés, que le souffle de vie que Dieu donnait n'est plus là. Dieu est celui qui soutient toute chose, qui donne la vie, qui l'enlève selon sa volonté et son plan parfait. Et accepter ces vérités en tant que chrétien nous permet d'être reconnaissants et de jouir pleinement de la vie qui vient de Dieu aujourd'hui, puis de dire merci pour chaque aujourd'hui qui va suivre dans les années à venir. Reconnaître ces vérités nous empêche de tomber dans l'orgueil, de croire qu'on est au contrôle de notre vie, de croire qu'on peut, par notre simple volonté, en changer la direction. Dans Luc 12, au verset 16 à 20, on n'ira pas voir le texte, mais juste vous rappeler, on a cette petite parabole courte que Jésus a dit. Un homme avait eu des bonnes récoltes, puis il y avait trop de récoltes, puis il ne savait pas où les mettre. Puis il a dit, je vais abattre mes greniers, puis je vais en construire des nouveaux. Puis là, je vais dire à mon âme, réjouis-toi, puis profite-en comme s'il avait assez d'argent pour le restant de sa vie. Et dans le passage, Jésus dit dans l'histoire, ce soir, ton âme te sera redemandée. Donc, tu vas mourir, puis tout ce que tu as fait, ben, ça va être pour un autre. Même celui qui a réussi, hein, les chrétiens de Jacques qui étaient pauvres, puis il avait de la misère à avoir le minimum. Lui, il avait réussi. Il ne pouvait pas se glorifier parce que c'est seulement Dieu qui nous permet de profiter des biens acquis. Ecclésiaste 3:13 nous dit, si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la santé. C'est Dieu qui nous permet de se réjouir, d'avoir des temps difficiles, d'avoir des accidents, d'avoir des déceptions dans la vie. Mais c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui nous rétablit. C'est lui en étant reconnaissant, de dire, Seigneur, dans ma vie, je viens de passer un gros nuage, mais le soleil est là et je vais apprécier le nuage et je me réjouis que le soleil, dans mes circonstances, est de retour. Notre vie est une vapeur. Elle vient et elle part très rapidement, subitement. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Donald Campbell, et c'est un bon exemple. Il avait planifié sa vie et dans ce plan, il désirait avec son bateau, le Bluebird, je pense que c'était le Bluebird de la 7e édition parce que son père avait fait ça et son père était mort à l'âge de 65 ans. Et dans l'histoire, on dit que son père était celui de tous les cascadeurs qui avaient vécu le plus longtemps en mourant à l'âge de 65 ans. Donc, Donald Campbell, ayant vu son père vivre longtemps, avait décidé dans son plan de dépasser la vitesse de 300 000 à l'heure. C'est 480 km/h, là. On va à 100 km/h sur l'autoroute, puis à 130, on va un peu plus vite, là. Lui, c'était 480. Il avait décidé de se rendre à 480 km/h et de prendre sa retraite. Il a réussi son exploit et il s'est retiré, mais pas de la façon prévue. À 310 000 à l'heure, presque 500 km/h, son bateau a explosé et dans un nuage de fumée et de vapeur d'eau, le 4 janvier 1967, à l'âge de 45 ans, sa vie s'est envolée comme une vapeur. Notre vie peut, comme une vapeur, à n'importe quel moment, disparaître. Et il y en a qui tentent le Seigneur, il y en a qui vivent dangereusement, mais peu importe nos circonstances, on n'est pas au contrôle. On n'est pas au contrôle de notre vie. On aime croire qu'on décide pour ce qui va nous arriver et le Seigneur veut qu'on soit responsable. Il y a bien des choses que le Seigneur dit, écoute, décide, agis, je te donne la liberté. Mais il faut toujours reconnaître qu'on n'est pas en parfait contrôle. Il y en a un seul et c'est le Seigneur. C'est pourquoi il faut penser, il faut dire et il faut vivre si Dieu le veut. On a besoin de se soumettre à notre Dieu pour reconnaître que tout vient de sa main. Hein, dites plutôt, si le Seigneur le veut, nous ferons ceci ou cela. Devant la vie qui est incertaine, on ne veut pas affirmer notre orgueil, notre arrogance, mais au contraire, dans l'humilité, on veut dire si le Seigneur le veut. Et Paul utilisait souvent cette expression. En Actes 18, 21, Paul dit, « Si le Seigneur le veut, je reviendrai vers vous en parlant à l'église d'Éphèse. » À Corinthe, il dit, « Si c'est la volonté de Dieu, j'irai bientôt vers vous. » Et encore un Corinthien, il dit, « Si le Seigneur le permet. » Il ne faut pas croire qu'il faille toujours dire « si le Seigneur le veut hein. ». J'ai accepté le Seigneur en 83, puis quand on voulait paraître spirituel, aussitôt qu'on disait qu'on avait des projets, on disait « si le Seigneur le veut, si le Seigneur le veut ». À un moment donné, j'ai réalisé, je ne suis pas obligé de toujours le dire. Mais il faut le garder à l'esprit quand même. Il ne faut pas s'en servir non plus comme une excuse, hein. Il y avait des frères au début de la vie chrétienne qui disaient souvent, « Ah oui, ah, je vais être là si le Seigneur le veut. » Puis on savait que lui, une fois sur deux, il n'était pas là. C'était pas parce que le Seigneur ne voulait pas, c'était qu'il n'était pas fidèle. Donc, on ne veut pas s'en servir comme une excuse. Si on a un engagement, autant que ça dépend de nous, on veut tout faire pour le respecter. C'est une expression qui doit nous faire réaliser notre dépendance envers Dieu. Si le Seigneur le veut, nous ferons ceci ou cela. Ça ne veut pas dire de ne pas faire de plan, mais de s'assurer que nos plans sont dans la volonté de Dieu. Et ça nous parle aussi de présenter ces plans-là au Seigneur pour qu'il puisse les modifier, les bonifier, les restreindre, les couper aux besoins. Faire des plans, c'est nécessaire. C'est une nécessité. On a besoin d'être prévoyant, d'être organisé. On doit dire au Seigneur, tu as un droit de regard sur mes plans. Tu peux les changer. Intéressant hein, de dire « nous ferons ceci ou cela ». Selon vous, ça touche quel domaine de la vie, les ceci et les cela? Pas mal tout. Hein? Ça ne touche pas spécialement les choses spirituelles. C'est pas « on va-tu prier, on va-tu lire, on va-tu… » C'est plus les besoins matériels, là, les projets qu'on a. Ceci ou cela. Ça me fait penser en Matthieu 6,33, hein, quand ça dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes ces choses-là, c'est quel genre de choses? C'est le ceci, c'est le cela, c'est la nourriture, le vêtement, le toit, puis tout ce qu'on a besoin, comme les besoins de base pour au niveau des choses matérielles. Est-ce qu'on vit d'une manière indépendante de Dieu? En Ecclésiaste, je ne vous ai pas mis le verset, en Ecclésiaste 28, on a ce verset. Tu es un homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ecclésiaste 28, 2 et verset 6. Et c'était adressé au roi de Tyr. Et pour nous, c'est tellement facile. On n'est pas des rois, on n'a pas des royaumes et un grand impact. Mais c'est facile de confondre notre volonté et la volonté de Dieu. Même inconsciemment, on peut se convaincre que la volonté de Dieu, Dieu doit être d'accord avec moi. Il peut être facile aussi de faire nos plans, nos projets, puis d'être déterminé et ensuite de saupoudrer ça d'un peu de spiritualité. Et ici, ce que Jacques disait, c'est mal de se glorifier par des pensées orgueilleuse, de penser, prétendre être au contrôle de notre vie. Quand on arrive au verset 16 et 17, je finis par la dernière partie du verset 17, le dernier verset. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Encore quand j'étais jeune chrétien, en 83, on était présent à 4 réunions par semaine. Là. Le mercredi soir, c'était un must. Il y avait le dimanche matin, 1 heure à l'école du dimanche, un enseignement à part. Il y avait le culte qui durait 1 heure et demie et il y avait la réunion du dimanche soir. Donc, ça, c'était un minimum d'avoir 4 réunions. Puis ça, c'était à part du service pour les frères et sœurs. Je me souviens qu'en étant jeune et en forme, j'en ai-tu fait des déménagements? Et quand j'étais pasteur, je voulais démontrer mon engagement et j'en ai fait des déménagements et de l'aide. Et il y avait un peu cette idée-là que si tu as l'occasion de faire le bien, si tu peux aider un frère et que tu ne le fais pas, c'est quoi? C'est un péché. Donc, faisons attention de ne pas prendre ce verset-là et d'autres en tordant le sens. Parce que si on pousse ça à la limite, les possibilités d'aider quelqu'un, que ce soit des frères et sœurs dans la foi ou dans notre famille, dans la société, ces possibilités-là sont illimitées. Donc, tu peux toujours être en train d'aider quelqu'un. On a besoin de saisir quoi dans nos vies? Seigneur, c'est quoi la volonté de Dieu? Puis c'est quoi les places où je sens vraiment que tu m'appelles à faire ces choses-là puis que pour l'avancement du royaume de Dieu? Je pense que j'aurais pu faire une couple de déménagements de moins, et je ne regrette pas du tout, et prendre ce temps-là pour aller voir des gens qui souffraient secrètement ou qui auraient besoin d'aide pastorale. Mais dans notre contexte ici, qu'est-ce que veut dire ce qui est bien? Si quelqu'un sait faire ce qui est bien, c'est quoi ce qui est bien? Oui, puis dans ce qu'on a vu des versets 13 à 17, c'est quoi qui est bien de faire? Ce qui est bien, c'est de dépendre de Dieu. Ce qui est bien, c'est de ne pas se glorifier soi-même en disant « je vais prendre ma vie en main », mais c'est d'être en dépendance de Dieu face à nos projets. Donc, Paul y conclut cette petite partie-là en disant « maintenant, je vous ai dit, c'est quoi qui est bien de faire? » Ce qui est bien de faire, c'est de remettre vos projets, de dépendre de Dieu. Oui, de vous prendre en main, mais de réaliser que vous n'êtes pas au contrôle, vous n'avez pas un contrôle absolu et vous ne voulez pas dire au Seigneur, « Seigneur, je t'ai fait confiance, là, je t'ai donné ta chance, mais à partir de là, j'ai été déçu, je te mets de côté puis je vais me prendre en main. » Ce qui est bien, c'est de dépendre de Dieu et que si vous ne le faites pas, vous continuez dans votre entêtement, dans votre acharnement à penser que vous êtes au contrôle de vos circonstances, et là, vous commettez un péché. Une petite parenthèse, hein, faisons attention dans notre lecture de la parole de prendre un verset au hasard et de lui faire dire n'importe quoi. Si vous cherchez la volonté de Dieu, puis que vous ouvrez la Bible, puis que là, vous lisez pendant une page ou deux, puis que là, il y a quelque chose qui correspond, vous faites un lien. Le Seigneur a compassion de nous au début de notre vie chrétienne. Moi, souvent, j'ai fait ça, puis j'ai eu des bonnes réponses. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je tentais un peu le Seigneur, là, que le Seigneur veut qu'on soit mature, qu'on connaisse sa pensée, qu'on connaisse sa parole et qu'on soit capable de dire dans telle situation, oui, je vais lire un verset, je vais en lire un autre, je comprends et je vais chercher des conseils et voici la volonté de Dieu qui est clairement exprimée plutôt que si on ouvre le journal et qu'on cherche une ligne, là, on va trouver la ligne qui fait souvent notre affaire. Donc ici, d'agir comme ces chrétiens pauvres, c'était de l'arrogance, c'était de l'orgueil, c'était de la résistance, c'était de dire « je suis au contrôle de ma vie et de mon futur ». Imaginez un homme d'affaires en difficulté qui devient prétentieux et qui s'imagine qu'il va réussir tout ce qu'il fait. Bien, ça, c'est mal agir. On a besoin de donner la gloire, le mérite à notre Dieu. Maintenant, on sait ce qui est bien. On sait ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Tu ne peux pas vivre comme si Dieu n'avait rien à faire dans tes affaires. Tu dois te remettre entre les mains de Dieu. Tu dois remettre tes choses entre les mains de Dieu et en le pensant réellement, si Dieu le veut. Et j'aime toujours cette image-là que j'avais entendue dans un message. Est-ce qu'on veut amener à Dieu des mains pleines? Pleine de nos projets, pleine de nos idées, puis de dire Dieu, bénis ça, tu sais, c'est ça que je t'amène, puis fais que ça marche, tu sais, donne ton sceau d'approbation. Où est-ce qu'on veut amener à notre Dieu des mains vides, de dire Seigneur, regarde, j'ai toutes sortes d'idées, là, mais toi, regarde, si je n'ai rien d'écrit sur ma feuille, si mes mains sont vides, qu'est-ce que tu veux y déposer, on pourrait avoir de belles surprises et on peut faire cet exercice où on dit, Seigneur, regarde, pas que je ne suis pas intelligent, j'ai plein d'idées, j'ai plein de projets, mais je pense que toi, tu peux avoir un impact encore plus grand, que ça peut aller encore mieux quand je te laisse diriger. Fait que, Seigneur, je te donne mes mains vides. Et peut-être que le Seigneur va dire, non, ce que tu avais, c'était bien, mais vous avez fait l'exercice. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Et on doit vraiment le croire. Qu'est-ce qui est arrivé avec ce plan dans le passé? Peut-être que tu as accepté le Seigneur depuis 5 ans, 10 ans, mais peut-être que ça fait 25, 30, 40 ans. Et là, tu regardes les aspirations que tu avais. Tu regardes dans le passé, puis là, tu te dis, qu'est-ce qui est arrivé avec le plan de Dieu? Dès le début de ma vie chrétienne, moi, je voulais faire uniquement la volonté de Dieu. Je l'ai discerné, je l'ai cherché. Et puis, quand je regarde dans le passé, qu'est-ce qui est arrivé avec son plan? Qu'est-ce qui se passe présentement avec le plan de Dieu dans le présent? Il est fort possible que vous ayez de tout votre cœur désiré faire la volonté en le mettant en premier, en étant dépendant de Jésus, avec une attitude de soumission, et que suite à cela, vous avez vécu une profonde et une douloureuse déception. Les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité. Vos circonstances, quand vous évaluez le plan passé de Dieu, les circonstances et l'exécution de ce plan-là, ça n'a pas été le fun, ça a vraiment été défavorable. En fait, vous regardez derrière vous et vous constatez votre présent et peut-être que le sentiment profond que vous avez, c'est comme si Jésus n'avait pas été là pour moi. Et quand on ressent ça, on peut avoir de la difficulté à faire confiance à nouveau à Jésus. Et quand on vient pour s'abandonner puis de dire maintenant, là où je suis, Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux te laisser la place pour agir. Ça se peut qu'on ressente de la douleur. On peut douter de la bonté de Dieu et de son intérêt envers nous et de sa capacité à vraiment agir et à faire la différence. Et là, on peut commencer subtilement à prendre sa vie en main. Si Dieu ne s'occupe pas bien de moi, moi, je vais m'en occuper. Je vais m'occuper personnellement de moi-même. Dans Ecclésiaste, très bon verset qui parle de cette situation-là, Ecclésiaste 7, vous l'avez à l'écran. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Hein, une drôle de tournure de phrase. D'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci? En bon québécois, c'est comment ça, ça va si mal dans ma vie? Quand j'ai commencé dans la vie chrétienne, tout était à sa place, tout était beau, tu bénissais, puis je croyais que tu avais des choses pour ma vie personnelle, puis tout à coup, ça, la chaîne a déraillé, le train a chaviré. Comment ça, ça va si mal? Qu'est-ce que, t'es où, Jésus? T'es où, Éternel? Qu'est-ce que tu fais? Pascal nous dit que ce n'est pas par sagesse qu'on parle comme ça. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Un petit peu plus loin, ça parle que si un arbre tombe dans un champ, qui va pouvoir le redresser et le remettre debout? Non. Dieu permet qu'il arrive des choses. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. On a parlé du plan de Dieu passé, le plan dans le présent. Qu'est-ce qui arrive avec son plan pour le futur? L'homme ne peut pas savoir ce qui va arriver après lui, hein, à la fin du verset. Comment faire pour continuer à être en dépendance, à demeurer dans le plan de Dieu? Il faut premièrement continuer à nourrir nos cœurs et nos pensées de sa parole. Il faut penser bibliquement, il faut réagir bibliquement. Il faut décider aussi que les enseignements qu'on va tirer de la parole, c'est ça qui va diriger notre vie. Ça va être notre autorité. C'est ça qui va avoir préséance sur nos pensées personnelles. Et ensuite, il faut s'abandonner. Non pas ma volonté, mais la tienne. Jean-Baptiste qui disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Après cela, on a besoin de discerner et de faire la volonté de Dieu. Et si on a vraiment la pensée de Dieu avec la parole, et si on a un cœur disposé, ça va devenir facile. On va faire ce qu'on veut puis ce qu'on aime. Parfois, le prix va être grand, mais ça va toujours être avec une grande conviction qu'on va décider de se soumettre à la volonté de Dieu. On ne veut pas se tourmenter avec la volonté de Dieu. Je ne veux pas que vous sortiez d'ici en disant « c'est tellement compliqué ». Non! Regarde les dangers de prendre notre vie en main, d'être orgueilleux, de penser que on a du pouvoir, qu'on est au contrôle. On ne veut pas se tourmenter. On ne veut pas avoir peur d'agir ou de prendre des décisions. On veut juste désirer la faire. Et si dans ton cœur, tu dis, Seigneur, oui, parfois je reprends le contrôle, mais je vois les domaines où j'ai décidé de reprendre le contrôle, je veux te le remettre. Et à partir de là, ben, vivez en paix et vous avez le droit de marcher en sifflant, en étant joyeux. On veut voir les avantages de suivre la volonté de Dieu, de suivre le plan de Dieu. On veut dire au Seigneur, « Seigneur, prends le volant, prends la direction de ma vie. » Premièrement, ça donne de la sécurité de savoir qu'on est entre les mains de Dieu, que Dieu dirige. On n'a pas à se débattre, on n'a pas à s'inquiéter, on n'a pas à se poser la question, « Hey, ma rébellion puis mon endurcissement, il va-tu avoir des conséquences? Tu vas-tu me punir? » Non, on est dans un lieu tranquille où le Seigneur connaît notre cœur et il sait qu'on veut faire sa volonté. On est en dépendance de lui. On veut compter sur lui. Ensuite, ça évite des grandes déceptions. Quand nos projets ne fonctionnent pas, Dieu est au contrôle. C'est une porte fermée. Ce n'est pas la fin du monde. Et souvent, nos déceptions profondes vont survenir quand on a décidé à l'avance qu'une chose était en particulier la volonté de Dieu. Bien, des fois, on dit, pour ma vie, c'est ça la volonté de Dieu et ça n'arrivera jamais. Mais c'est nous qui avons décidé ça. Ce n'est pas le Seigneur qui nous l'avait enseigné. De suivre le plan de Dieu, sa volonté, ça donne la paix et la confiance dans notre cœur. On est en paix. J'espère que Dieu vous a touché. J'espère que vous voyez comment appliquer ces choses-là d'une façon personnelle dans nos vies. Continuons à être des personnes enthousiastes, qui font des plans, qui cherchent à les réaliser. Mais réalisons notre incapacité, notre impuissance. Réjouissons-nous que Dieu est là. Que Dieu s'occupe de nous. Acceptons les déceptions, là où notre compréhension du plan n'a pas fité avec les réalités qu'on a vécues et juste de s'incliner, de dire, Seigneur, regarde, mais t'as fait telle idée pour ma vie, mais regarde, on vit dans un monde imparfait, on vit dans un monde où il y a du péché. Et toi, tu es capable de tout prendre ça puis de faire sortir des belles choses et je veux accepter la façon que tu diriges. On va terminer dans la prière. Seigneur Jésus, oui, on veut te dire que ta volonté soit faite. Comme disait le chant, on veut bénir ton nom. Quand on aime le film de notre vie, on aime la façon que les choses se déroulent. Tu es un Dieu bon qui nous donne des bonnes choses. On veut aussi te bénir quand nos circonstances ne sont pas agréables, quand à nos yeux, elles sont défavorables et qu'on souffre et qu'on veut résister. Dans ces moments, on veut trouver un lieu de sécurité et dire, Seigneur, on sait que tu es là, que tu n'as pas perdu le contrôle de nos vies, que tu es encore un Jésus qui nous aime personnellement, un Jésus qui veut se glorifier dans nos vies, qui veut manifester son caractère, sa personne à travers nous. Et Seigneur Jésus, oui, on veut te dire, accomplis ta volonté, guide-nous dans nos pas. Oui, on veut avancer en disant, si c'est la volonté de Dieu, si le Seigneur le permet, selon sa direction. Oui, Seigneur, merci d'être encore au contrôle de nos vies. Merci que quand on pense que tu nous as complètement abandonnés et que nous, on se détourne un peu de toi, que toi, tu ne te détournes pas de nous, tu ne te décourages pas de nous. Et Seigneur, on veut revenir au cœur, au centre de ta volonté. Amen. Merci.